Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. Comment l'océan est-il source de bio-inspiration ? Avec Nadia Ameysian.
Observer la nature pour s'en inspirer a produit parmi les plus belles toiles qu'abritent nos musées. Mais au-delà des merveilles esthétiques, le vivant peut inspirer aux scientifiques des innovations cruciales et durables, comme va nous le démontrer la chef de la station marine de Concarneau et professeure au Muséum national d'histoire naturelle, Nadia Ameysian. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors, regarder la nature pour essayer d'en imiter les propriétés exceptionnelles de certaines espèces animales et végétales, c'est une définition trop sommaire de la bio-inspiration. Est-ce que vous pourriez nous en donner une plus exhaustive ?
Alors avant de vous donner une définition plus exhaustive, je voudrais juste rappeler que la bio-inspiration n'est pas une démarche récente. Très tôt, l'homme s'est inspiré du vivant, et je prendrai comme exemple Léonard de Vinci, que tout le monde connaît, qui s'est inspiré par exemple du vol des oiseaux pour essayer de faire un engin volant. Puis l'homme, dans ses dernières années, s'est déconnecté du vivant et a pris du recul par rapport à la nature et a fait des produits un petit peu en lâcher prise. Et effectivement, depuis quelques années, on revient à cette observation du vivant au travers de ses formes ou de ses fonctions. Alors qu'est-ce que j'entends par fonction ? C'est la respiration, la locomotion, la communication, la protection, au travers de ses interactions ou des procédés qu'il peut mettre en place. Cette approche de bio-inspiration, elle est multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va avoir un œil d'un scientifique, un biologiste, d'un chimiste, d'un designer, d'un industriel, d'un urbaniste, etc. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier dans cette approche, qui est en fait innover hein, en s'inspirant du vivant, il ne faut pas oublier qu'on doit impérativement le faire en respectant l'environnement et en évitant de puiser dans la ressource. Et là, le muséum, ce sont ses valeurs et il est très très près de cette définition-là. Au muséum, il n'y a de bio-inspiration que dans ce contexte-là.
Maintenant que nous sommes plus familiers de cette démarche bio-inspirée, racontez-nous à travers quelques exemples très concrets ce que les scientifiques observent dans l'océan. Quelles propriétés ils veulent dupliquer et pour quelles applications concrètes ?
Les exemples sont nombreux. Je vais commencer avec un qui s'inspire de la nage ondulatoire des anguilles, qui a inspiré des industriels qui ont fait une hydrolienne très particulière, laquelle est conçue avec une membrane qui va bouger au gré des courants. Et du coup, cette hydrolienne eh bien, n'a aucun impact sur les écosystèmes puisqu'il n'y a pas de turbine ni de palme. Ensuite, en termes de procédés, vous avez tout ce qui est biomatériaux. De nombreux organismes vont construire leur squelette. On appelle ça la biominéralisation. Et ces organismes, eh bien, ils construisent des squelettes très résistants parce qu'on va avoir des briquettes qui sont des plaquettes de carbonate de calcium, donc c'est le minéral, qui vont être liées entre elles par un espèce de mortier, hein, enfin mur, un mortier, qui sont des protéines. Et ces protéines, elles vont avoir une propriété intéressante, elles vont éviter la propagation des fractures. Donc quand vous êtes un industriel et que vous voulez faire du matériau, vous allez vous inspirer de ces structures-là. Et typiquement, on a des céramiques qui sont actuellement bio-inspirées de la nacre des mollusques, qui sont ainsi 10 fois plus résistante que les céramiques que l'on faisait jusqu'à maintenant. Et quand on regarde la structure de cette céramique qui s'inspire du vivant, on s'aperçoit qu'elle n'arrive pas encore à imiter complètement le vivant. Donc quand on va y arriver, eh bien, on va avoir des céramiques qui seront très très résistantes. Un autre processus qui inspire régulièrement les industriels va être tout ce qui concerne les bioadhésifs. On a de nombreux organismes marins qui vont se fixer, soit de façon définitive, soit de façon provisoire. Et pour ça, ils vont sécréter des colles, donc des adhésifs, qui vont avoir des propriétés très intéressantes. Elles vont résister à l'air, elles vont résister au fluide, elles vont résister à la pression, elles vont être capables de se coller sur des milieux inertes ou sur du milieu vivant. Et en plus, elles sont fabriquées à température et pression ambiante. Donc si l'homme est capable, et il commence déjà à être capable, d'imiter cette façon de faire des adhésifs, eh bien on va avoir des adhésifs très performants, faits dans un environnement durable.
Et quelles sont les espèces qui sont les championnes des adhésifs? C'est les étoiles de mer?
Alors vous en avez plusieurs, hein, mais il y a les étoiles de mer et les poulpes aussi qui ont cette particularité de pouvoir adhérer grâce à ce mucus qu'ils vont sécréter et puis de aussi se décoller sans problème. Et ça, c'est grâce à la forme qu'ont alors les tentacules du poulpe ou les petits pieds des étoiles de mer. C'est un peu un nouveau type de scratch. Elles vont adhérer et désadhérer très facilement. Donc là, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à imiter ce processus-là, mais je ne désespère pas que dans les années à venir, on y arrivera.
Ce qu'on entend dans ce que vous nous dites, c'est qu'il arrive qu'un seul animal puisse inspirer de multiples innovations, c'est le cas des oursins, mais il arrive aussi que plusieurs espèces, comme vous le mentionniez à l'instant, puissent apporter des solutions à une seule problématique. C'est bien ça qu'on regarde ?
Tout à fait. Alors, si je reviens sur mes bioadhésifs, effectivement, on va avoir dans le règne du vivant plein d'organismes qui sont capables de sécréter ces bioadhésifs. Et vous parliez de l'oursin, donc un de mes animaux fétiches, qui, lui, est juste incroyable. Eh bien, quand on regarde sa mâchoire avec une position des dents très particulière, cette structure s'appelle la lanterne d'Aristote. Eh bien, cette lanterne d'Aristote a inspiré des industriels qui ont fait un appareil à biopsie. Ce même oursin a un squelette très très particulier, les alvéolés, et vous avez des industriels qui ont imité la structure de ce squelette pour faire des supraconducteurs très performants et de meilleure qualité. Cet oursin, il a aussi inspiré des gestionnaires de la nature pour faire un récif artificiel. C'est-à-dire que les piquants qui représentent l'oursin servent à protéger les poissons. Et donc, ces structures sont mises dans des ports ou des structures maritimes et vont servir de frayères aux jeunes des poissons. Ces squelettes d'oursins ont également beaucoup inspiré des scientifiques pour faire de nouveaux types de robots. Et ces robots ont deux vocations. La première, à aller explorer les fonds marins profonds qui sont difficilement accessibles. Et vous en avez même un qui a imaginé un système de pinces à extraction pour aller prélever du sédiment sur d'autres planètes. Cet oursin a également une molécule qui s'appelle la cycline et qui intervient dans le traitement du cancer. Et je pourrais vous citer comme ça des tas d'exemples. Donc, comme vous le disiez, une espèce, des tas d'innovations, un procédé, des tas d'espèces qui le possèdent.
Alors, on l'entend évidemment dans ce que vous nous dites, la bio-inspiration, c'est pas seulement une lubie de designer pour changer le format d'un objet high-tech. Au contraire, ça peut amener à des avancées scientifiquement réellement fondamentales. Dites-nous comment est-ce que d'anodines bactéries marines, au fond, pourraient révolutionner la recherche contre Alzheimer ?
On a un petit animal sur nos littoraux qui s'appelle un bryozoaire. C'est un animal colonial qui sécrète son squelette. Et des scientifiques se sont intéressés aux molécules que pouvait élaborer cet animal. Et parmi ces molécules, il y a des molécules qu'on appelle des bryostatines. Et parmi ces bryostatines, il y a la bryostatine 1 qui permet de renforcer la mémoire des modèles animaux. Donc, les scientifiques se sont dit « Waouh, super, on a peut-être un candidat pour traiter la maladie d'Alzheimer qui pour l'instant n'a pas de traitement. » Donc ils ont analysé cette molécule, ils l'ont reproduite, donc synthétisée. Le souci, c'est que la bryostatine synthétisée n'est pas aussi efficace que la bryostatine naturelle. Le souci, c'est que pour faire un gramme de bryostatine naturelle, il faut une tonne de ces organismes. Alors, je vous ai rappelé qu'au début, il fallait surtout pas puiser dans la ressource. Donc là, on est vraiment devant un cas où on serait obligé de puiser dans la ressource. Et puis, je suis même pas sûre qu'on aurait suffisamment de bryozoaires pour faire un kilo de bryostatine. Les scientifiques sont donc allés plus loin et ils se sont aperçus que c'était une bactérie qui vivait en symbiose avec cet animal qui permettait l'élaboration de cette molécule. Donc à ce jour, on est en train de bien cibler cette bactérie pour arriver à la mettre en culture. Et une fois qu'on pourra la mettre en culture, eh bien on pourra faire de la bryostatine synthétique qui, espérons-le, sera aussi efficace que la bryostatine naturelle. Et on aura enfin une possibilité de traiter cette maladie d'Alzheimer qui touche beaucoup de personnes.
Cet exemple de la bryostatine, au fond, il n'est pas isolé, c'est pour ça qu'on en parle, c'est parce que les débouchés les plus nombreux de la bioinspiration concernent la santé. Décrivez-nous quelques autres exemples montrant comment est-ce que les poulpes, à nouveau les oursins décidément, et autres anguilles ont inspiré aujourd'hui des projets qui sauvent déjà des vies.
Alors, la santé va être intéressée par la bioinspiration à deux niveaux. Au niveau des molécules, comme on vient le voir, pour faire des médicaments, donc beaucoup de médicaments anticancéreux, anti-sida, anti-infectieux. Il y a le cas du cône, qui est ce mollusque dont le venin est constitué de conotoxines. Et cette conotoxine a été étudiée par les scientifiques et a permis de mettre au point un médicament qui est 100 fois plus puissant que la morphine, mais qui n'a pas l'addiction de la morphine. Donc vous voyez l'intérêt pour la santé. Mais vous avez aussi un autre niveau d'intérêt pour la médecine, c'est tout ce qui est robots chirurgicaux. Ou, on a vu l'appareil à biopsie avec l'oursin, mais le poulpe, il a des tentacules qui sont capables de s'allonger, de tourner à 360 degrés, de s'étendre, de se faufiler. Et des industriels ont fait un robot chirurgical qui présente les mêmes propriétés. Les anguilles dont je parlais tout à l'heure là pour cette fameuse hydrolienne, eh bien cette nage ondulatoire a inspiré les hydroliennes, mais a inspiré aussi des industriels pour faire des petits robots qui pourront aller dans les vaisseaux sanguins. Donc vous voyez, il y a une foultitude d'innovations qui nous attendent, tout ça simplement en regardant le vivant.
Alors, peut-être pour conclure sur l'impératif de sobriété, parce que à quoi bon s'inspirer de la nature si c'était pour la piller ? Vous êtes déjà revenu à plusieurs reprises sur l'idée qu'il ne fallait pas prélever trop. Comment est-ce que la bio-inspiration peut nous éviter de piller de façon inconsidérée, tout en étant une incroyable source d'innovation ?
Alors, cette bio-inspiration va servir à sensibiliser les industriels, les acteurs socio-économiques, à l'extraordinaire potentiel de la biodiversité, à ne pas avoir de démarche utilitariste de cette biodiversité, et puis en tirer les exemples jusqu'au bout, les conséquences. C'est-à-dire que quand vous regardez un écosystème, les déchets des uns font la ressource des autres. On est dans de l'économie circulaire. Et bien globalement, il faudrait qu'on arrive à faire moins d'innovation, mais à les faire mieux. Ça, c'est l'ultime démarche de cette bioinspiration, ce qui nous permettra de sauvegarder le potentiel évolutif de notre biodiversité, de nous reconnecter au vivant, parce que c'est aussi un des objectifs qui est important avec la bioinspiration, c'est vous découvrez la biodiversité et quelque part, vous vous reconnectez au vivant et vous réalisez que vous faites partie de ce vivant et que vous n'êtes pas au-dessus de ce vivant. Donc, tous les actes que vous ferez auront des conséquences in fine sur vous.
La seule manière d'avoir une économie qui vive en harmonie avec l'écologie, c'est la bioinspiration. Merci beaucoup pour cette leçon, Nadia Méziane.
Dans cet épisode, vous venez d'écouter Nadia Méziane, chef de la station de biologie marine de Concarneau et professeur au Muséum national d'histoire naturelle, interviewée par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective. Avec le soutien du Crédit Agricole et de la financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que nature vive » qui a inspiré le titre de ce podcast. «